C'est à l'occasion de l'inauguration vendredi dernier du mémorial de Noé que nous mettons un coup de projecteur sur cette part sombre de l'histoire de notre région. Le camp de Noé, situé entre Saint-Gaudens et Toulouse, a accueilli à partir de 1941, mais nos deux invités pourront peut-être me rectifier, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus de 3000 personnes, essentiellement réfugiées de la guerre d'Espagne et juifs. Et pour en faire mémoire, nous accueillons ce matin deux historiens, Elrica Leroy, en charge des hauts lieux de la mémoire et de la résistance au conseil départemental de l'Haute-Garonne, et Antoine Grande, directeur du musée départemental de la résistance et de la déportation. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Elrica Leroy, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quand a été construit ce camp de Noé et pour quel usage ?
Alors le camp de Noé a été construit dans l'urgence en 1941 pour répondre aux critiques que subissait le régime de Vichy, notamment par la presse étrangère, sur le traitement réservé aux étrangers, tous ces étrangers jugés indésirables en France. Il fallait montrer que le régime de Vichy soignait dignement ces internés.
Et alors ces indésirables, qui étaient-ils ? Les premiers indésirables qui ont pu arriver justement dans ce camp de Noé ?
Alors, deux catégories d'internés sont arrivées en même temps. Les camps construits sur les plages du Roussillon étant surchargés, le camp de Gurs dans les Pyrénées, dans les basses Pyrénées à l'époque, les Pyrénées Atlantiques aujourd'hui, étaient surchargés aussi. Donc, ce sont des réfugiés espagnols, des républicains, des civils qui sont arrivés dans le flot de la retirada entre février et avril 1939. 440 000 personnes qui arrivent à la frontière française en quelques semaines. Donc eux arrivent du camp de Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne et du camp de Brame dans l'Aude. Ils sont environ 900. Des réfugiés allemands, ces juifs allemands que le Reich d'Adolf Hitler a rejeté d'Allemagne, puisque la première politique envers les juifs a été de les contraindre à l'exil. Donc ils sont arrivés totalement démunis en France, ils n'avaient rien, et ont été tous internés au camp de Gurs, un camp effroyable, où les conditions de vie étaient inhumaines, et ce camp a été surchargé aussi, donc on va les transférer à Noé. Juste pour l'anecdote, enfin quelque chose d'important et significatif dans la région, ce camp de Noé a été construit par les républicains espagnols, qu'à l'époque le régime de Vichy avait envoyé travailler dans des groupements de travailleurs étrangers à Clairefonds, près de Portée-sur-Garonne. Et ces hommes vont être chargés de construire en dur pour la première fois ces camps. Je dis ces camps parce qu'il y a le camp du Récébédou aussi, qui est le jumeau du camp de Noé, le camp du Récébédou se trouvait à Portée-sur-Garonne. Et ces camps vont être construits en février 41 et ensuite montrés à la presse.
Et alors justement, vous dites qu'il fallait faire bonne figure. Le régime de Vichy a voulu montrer quoi en fait ? Quelle était la destination première de ce camp de Noé ?
Alors le camp de Noé a été présenté comme un camp hôpital, réservé aux malades, aux infirmes.
Personnes âgées aussi peut-être.
Et aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux couples âgés de plus de 60 ans. C'est donc un camp qui, contrairement par exemple au camp de Gurs, ce sont des baraques qui sont hors d'eau et hors d'air, en dur, avec des tôles. Et quand les internés de Gurs, ces juifs allemands de Sarre en particulier et de Bade, arrivent, ils sont stupéfaits parce qu'ils découvrent
un certain confort peut-être.
Complètement, ouais. Des lavabos. Chose extraordinaire, des lits, des couvertures, même plusieurs couvertures, ils n'en reviennent pas. Ouais. Et alors, le côté incongru, c'est même, ils voient autour des baraques des parterres de fleurs. Voilà. Donc vraiment, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pérouton, a voulu faire bien les choses, mais ils sont accueillis même par un commandant qui leur explique sous le drapeau tricolore qu'ils sont les bienvenus dans ce camp. Que c'est pas quelqu'un qui est un militaire, il est hôtelier et les accueille vraiment chaleureusement. Pour qu'un mois plus tard, le 24 mars 1941, la presse américaine soit conviée à visiter le camp de Noé et le camp du Récébédou, puisse même interroger les internés, qui eux sont vraiment arrivants de Gurs et de Sept-Fonds. Ils se disent, ici on a des conditions, vous vous rendez compte, on a l'eau courante. On a des lits avec des paillasses propres. Les allées, contrairement aux autres camps, sont asséchées par des gravillons. Ça a l'air de rien, mais quand il fait l'hiver 40 a été très dur dans les camps. La boue, c'était continuel. Donc, voilà. Bon, tout ça, cette supercherie passée. Donc, la presse américaine se fait écho du bon traitement par l'État français de ces internés.
Est-ce que vous voulez dire qu'en fait, le revers de la médaille, c'est que ça n'était pas partout, enfin, que ce camp hôpital n'a pas duré comme ça?
Ou est-ce qu'il y a... Non, c'est vraiment une vitrine. Oui, parce que les journalistes américains ne sont pas allés dans les autres camps, le camp du Vernet, le camp de Sept-Fonds, le camp de Rieucros, qui étaient des camps répressifs où les conditions de vie étaient épouvantables.
Mais le camp de Noé est vraiment resté un camp hôpital confortable d'une certaine manière pour les...
Un mois.
Oui. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, passé la visite des Américains, un nouveau commandant du camp arrive sur place. Lui, c'est son métier. Il va mettre en place une discipline assez sévère. Rapidement, dans ce camp, en fait, avait été installée une infirmerie et des pavillons dédiés. Il y avait 125 pavillons dans ce camp. C'est un petit camp, destiné à 1500 personnes environ, 1600 personnes. Et des infirmeries étaient dédiées à soigner les tuberculeux, puisque à Noé ont été envoyées beaucoup de personnes malades, et la tuberculose est la plaie de ces camps. Mais rapidement, le commandant signale au préfet de région qu'il n'y a pas de médicaments. Par exemple, dans un courrier de début 1942, il signale qu'il n'y a qu'un seul tensiomètre pour tout le camp. Il n'y a pas de pansement, il n'y a pas de traitement. Ça devient vite catastrophique. La maladie se propage au camp. Les conditions de vie deviennent rapidement comme dans les autres camps, c'est-à-dire que les internés sont touchés par la plaie de l'interné, c'est la maladie de la faim. Ah oui. Et puis tous les parasites en tout genre, les poux. Enfin, rapidement, le camp de Noé devient comme les autres camps, jusqu'à ce qu'il devienne l'antichambre de la déportation à l'été 1942. Voilà. Et il ferme, il cesse d'être un hôpital, un camp hôpital en début 1943.
Alors, est-ce que les habitants étaient au courant, en fait, de l'existence de ce camp? Et vous me disiez en préparant cet entretien que le cardinal Saliège a eu vent, en fait, des conditions déplorables et épouvantables on va pas dire détention, parce que officiellement ça n'était pas une prison, mais d'accueil de ces prisonniers et de ces réfugiés. Finalement, qu'est-ce que ça a pu engendrer comme réaction?
En fait, Pérouton, le ministre de l'Intérieur, quand il annonce la création de ce camp hôpital, il permet aussi aux œuvres de bienfaisance, aux associations de solidarité et de secours étrangères particulièrement, je pense à la Croix-Rouge suisse, à la CIMAD, aux Quakers, d'intervenir, et même aux organisations juives contrôlées par Vichy, d'intervenir dans les camps. Et donc ces associations vont être le témoin de ce qui se passe dans ces camps, en particulier les déportations, puisque ce sont des personnes âgées qu'on va déporter, des femmes, des enfants. Le trajet donc on est à l'été 42, les Allemands ne sont pas présents sur le territoire, et trois convois de déportation vont être organisés le 8, 10 et 24 août 1942. Pour répondre à la demande de René Bousquet, bien connu ici, longtemps traqué par les Klarsfeld d'ailleurs. Et donc ils vont être le témoin et rapporter à l'archevêque Jules Géraud à Liège ce qui se passe. Et c'est des scènes déchirantes, il y a des tentatives de suicide, ces gens qui ont bien du mal à marcher tellement ils sont amaigris, malades, fatigués. Ces gens étaient sous-alimentés, il faut bien avoir ça en tête. Leur ration quotidienne, c'était 500 calories par jour, alors qu'il en faut 2000 normalement. Ce sont des gens qui sont cachexiques. Et ces associations vont se faire le relais auprès de l'archevêque Saliège de ce qui se passe. Parce que dans un premier temps, en fait... Les internés, on internait des étrangers.
Donc ils ne parlaient pas français non plus.
Pour la plupart, ils ne parlaient pas français. Et puis pour la population, c'était des mesures d'exclusion qui concernaient des étrangers, qui concernaient les rouges aussi. Les Espagnols étaient vus comme ça. Il y a eu une phobie du rouge, du communiste.
Donc ça faisait peur aussi.
Ça faisait peur,
population.
Ouais.
Et pour autant, est-ce qu'il y a eu quand même des mesures de solidarité, des mesures d'entraide vis-à-vis de ces personnes?
Alors, ben par ces associations dont je vous parlais, oui. Et puis la lettre pastorale de l'archevêque Saliège, lui, dans toutes les églises du diocèse, le 23 août 42, va avoir un retentissement conséquent. À partir de là, il y a une prise de conscience qui est faite sur le sort de ces Juifs en particulier qu'on déporte pour une destination inconnue, dans des conditions épouvantables, dans des wagons à bestiaux. Ceux qui sont témoins du passage de ces wagons sont effrayés par l'odeur qui y règne. Enfin, c'est insalubre. Et puis on traite ces gens comme un vil troupeau, tel que le disait Saliège. Donc il va y avoir des réseaux de sauvetage, même des réseaux juifs hein, qui vont se mettre en place. Je pense notamment à ce groupe qui s'appelait La Sixième, hein, qui est composé de juifs qui vont venir aider, fournir de faux papiers, permettre l'évasion de ces camps. Il va y avoir pas mal d'évasions dans ces camps. Ouais, c'est une vraie prise de conscience.
Bon, heureusement, voilà une petite lueur d'espérance quand même dans ce monde bien, bien sombre. Aujourd'hui, le camp de Noé sort de l'oubli. Un hommage aux victimes a été rendu le 22 octobre dernier avec l'installation d'une sculpture et de plaques de mémoire gravées en 6 langues, donc les nationalités dont vous parliez. Elrica Leroy, l'espagnol, l'hébreu, l'allemand, le yiddish, l'anglais et le français, qui témoignent évidemment de la diversité des nationalités des internés. Antoine Grande, vous êtes depuis quelques semaines directeur du musée de la résistance et de la déportation du département de Haute-Garonne. Ce camp de Noé n'était pourtant pas une exception en France, puisque Elrica Leroy nous a parlé des camps de Gurs et d'autres camps dans notre région. Mais pourtant, dès les années 30 ou 40, cette méthode d'internement avait déjà existé, non ?
Alors, le camp de Noé fait partie d'un ensemble, fait partie d'un système, et qui dit système dit idéologie, dit organisation et dit volonté. Et là, la volonté, c'est une volonté d'État, une volonté de Vichy, naturellement, mais c'est aussi malheureusement une volonté de la Troisième République qui va être poursuivie par la Quatrième République. C'est-à-dire que l'idée de désigner comme indésirables des étrangers naît en 1938, et Erika l'a rappelé, face à l'afflux de réfugiés, de migrants antifascistes poussés par les persécutions en Europe de l'Est, en Europe centrale, en Allemagne, et tout le flot des républicains espagnols, la retirada, c'est près de 500 000 personnes qui franchissent les Pyrénées. Et donc, c'est Daladier hein, qui met en place l'idée d'un internement des étrangers indésirables. Si bien que lorsque la guerre éclate, que les tensions atteignent leur paroxysme, il existe déjà dans le système des textes, des lois et des possibilités de faire, à la main des préfets, un système pour enfermer, embastiller, mettre entre des barbelés, dans des baraques, ceux que l'on considère comme potentiellement dangereux ou en tout cas ingérables. Et donc la population qui, dans une vaste période qui va courir tout le long de la Seconde Guerre mondiale, est ainsi internée dans des camps, je le répète, français, à l'initiative de la France, par la France, c'est environ 600 000 personnes. Ces 600 000 personnes, qui sont-ils ? C'est les travaux de Denis Péchanski qui ont été pionniers en la matière qui le montrent bien. Vous avez naturellement ces républicains espagnols dont on a parlé. Vous avez tous les antifascistes autrichiens, allemands. Certains étaient brigadistes, d'autres étaient réfugiés. Vous allez avoir les juifs étrangers. Vous allez avoir les populations nomades l'on va appeler les tziganes et dont l'internement, le fichage, les fichiers anthropométriques précèdent et excèdent la chronologie de la guerre. Vichy donc arrive avec un des outils de un fonctionnement. Et le camp de Noé nous montre bien qu'il n'y a pas en France, dans la politique de Vichy, d'opposition ferme entre ce qui relève des politiques de répression, de persécution. C'est un ensemble. Certains sont destinés à la mort, d'autres sont destinés à la rééducation. Ils sont tous considérés comme des ennemis. Et lorsque, notamment, à l'été 1942, dans le prolongement de la rafle du Vélodrome d'hiver, les autorités allemandes demandent à Vichy de livrer 10 000 juifs, et Serge Klarsfeld l'a rappelé lorsqu'il est venu en conférence, c'est dans ces camps qu'on va puiser. Et Vichy va rajouter aux politiques antisémites de persécution une intention xénophobe, d'où la surreprésentation de ces juifs étrangers au sein de ces contingents de déportés. Cette cérémonie qui a eu lieu à Noé, par la diversité des associations qu'elle a emmenées, je pense notamment aux guérilleros avec M. Farini, au CRIF avec M. Attia, aux fils et filles des tués, avec... Madame Attia et naturellement à la mairie de Noé. Naturellement, tout cela nous montre bien parce qu'ils sont admirablement portés autour de ce monument et de cette inauguration, accompagnés par le département, la région, l'État, que cette union des mémoires est un révélateur de ce que furent les politiques de répression, d'internement, de persécution de Vichy. Mais ne l'oublions pas, qui ont débuté sous la Troisième République et se sont poursuivis sous la Quatrième.
Ouais, merci, merci pour ces rappels. Juste pour terminer cette interview, vous signaliez Monsieur et Madame Karlsfeld. C'est effectivement une exposition que nous pouvons découvrir au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation. Une exposition qui est donc visible à Toulouse. Merci à vous deux, Hélérica Leroy et Antoine Grand, de nous avoir éclairés ce matin sur cette histoire du camp de Noé en Haute-Garonne.
Merci à vous.